Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est une pratique qui tour à tour fascine, intrigue ou fait peur. Il n'y a qu'à voir pour cela le succès du Québécois Mesmer, le roi en la matière, battant des records d'audience sur TF1. Cette pratique, pour qui ne serait pas familier de ce genre de spectacle, c'est l'hypnose, une réalité qui trouve de plus en plus de place, en complément de la médecine traditionnelle et qui, loin des strass et des paillettes, fait du bien et est de plus en plus plébiscitée par les Français. Hypnose, vrai soin ou charlatanisme, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau pour nous en parler deux femmes. Dominique Ornus-Drain, vous êtes anesthésiste, réanimateur et médecin du sport. Vous travaillez auprès de l'équipe de France d'escrime handisport. Bonjour.
Bonjour.
Rosa Pérez Miguel, vous êtes anesthésiste, réanimateur également, et vous êtes spécialiste de la douleur, on appelle ça algologue. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu au micro de cette émission, donc pour ce sujet étonnant, j'espère que le titre ne vous a pas choqué, mais je pense qu'il fait écho aux questions que peut se poser tout à chacun. Avant qu'on parle du roi Mesmer, parce qu'évidemment beaucoup doivent avoir ça en tête, je voulais tout simplement que vous commenciez non pas par nous hypnotiser, blague qu'on doit souvent vous faire, pardon, mais peut-être par nous décrire ce que c'est qu'une séance d'hypnose. Pour essayer de voir et de comprendre, j'ai fait comme ferait beaucoup d'autres. Je suis allé sur YouTube, j'ai regardé les vidéos les plus vues et j'ai trouvé un certain Benjamin Lubenzinski qui est psychothérapeute et coach et qui a 4 millions de vues et qui vous fait une séance donc d'hypnose en direct. Il est habillé avec un beau costume, il vous regarde dans les yeux. Ça dure, je crois, une bonne heure et il faut reconnaître qu'on a presque envie de s'endormir. Je ne sais pas si c'est parce que c'est trop long. Alors commençons avec vous, je ne sais pas qui se lance. Rosa Pérez Miguel, à quoi ça ressemble une séance d'hypnose?
Alors, chaque séance d'hypnose est différente. Il y a différentes techniques pour différents objectifs. Et j'avais envie de commencer par vous parler de ce qui est la vraie hypnose médicale dans un bloc opératoire, par exemple, avec le témoignage de quelqu'un qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui a subi une intervention lourde pour une femme, une mammectomie sous hypnose.
La mammectomie, c'est donc le remplacement...
Voilà, une ablation du sein.
Ablation du sein.
Tout à fait.
Alors, avant que vous nous disiez peut-être les effets que ça a eu, comment vous vous y prenez? Moi, j'ai trouvé un article dans Le Parisien, une certaine Lucienne étendue dans une chambre d'hôpital, en l'occurrence, c'est en Haute-Savoie, et puis la praticienne Christine Favier, infirmière anesthésiste, commence à lui parler, concentrez-vous sur votre respiration, fermez les yeux, vous allez respirer différemment, gonflez bien les poumons. Qu'est-ce que vous dites à vos patients quand ils sont en bloc?
Alors, ce qui est très important pour rentrer dans un état d'hypnose, c'est de pouvoir focaliser son attention sur quelque chose. Ça peut être la respiration, effectivement, c'est quelque chose que tout le monde a sur lui et qu'on peut contrôler en faisant vraiment attention. Même si c'est quelque chose d'automatique, on peut la contrôler, on peut demander aux gens de respirer plus profondément, plus rapide, plus lentement. On peut focaliser son attention aussi sur quelque chose d'extérieur avec la vue, parce que c'est le sens le plus utilisé par l'humain.
Donc, par exemple, ça va être regarder quelque chose au plafond.
Focaliser la vue sur quelque chose au plafond ou sur une couleur, une ombre, une lumière, un objet. Là, c'est au choix de chacun. Mais bon, que ça soit la vue ou la respiration, ça marche très bien. Et la focalisation de l'attention sert à faire que la personne rentre un petit peu en elle. C'est-à-dire, plus l'attention est focalisée, plus la conscience critique qu'on appelle, c'est-à-dire l'attention intellectuelle qu'on peut porter sur les choses qui sont autour, plus cette attention diminue. Et petit à petit, une fois que la personne commence à rentrer dans un état un peu plus modifié, comme on dit aussi, on peut commencer à donner des suggestions positives. En général, on connaît le patient, on ne le plonge pas dans un état d'hypnose sans le connaître. On le connaît avant, on connaît ses centres d'intérêt, on connaît ses centres de confort ou d'inconfort. Et quand on est au bloc opératoire, on lui demande on se donne des signes. Si jamais il y a un inconfort qui se manifeste, Le patient nous le dit.
Alors justement, excusez-moi, si je reprends l'exemple de Lucienne, après elle lui dit « Vous allez sentir que ma voix ralentit, continuez à respirer tranquillement. » Elle invite ensuite Lucienne à partir en balade. C'est comme si vous empruntiez un chemin pour une randonnée que vous avez particulièrement aimée. Et en effet, après, donc, Lucienne est en état d'hypnose et elle lui dit à l'oreille que si elle a mal, il faut qu'elle fasse un signe, c'est ça ?
Absolument.
C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, on décroche en fait, de la réalité. Comment ça se passe ?
Tout à fait.
On rentre en transe, j'ai lu aussi, c'est le mot que vous utilisez.
C'est ça, c'est vous modifiez votre état de conscience pour partir sur un monde dans l'imaginaire. C'est à ça que sert l'hypnose, c'est-à-dire à utiliser l'imaginaire de chacun pour pouvoir l'amener là où il veut aller. Et par exemple, sur des expériences positives et agréables, c'est comme ça qu'on pratique, en tous les cas, au bloc opératoire très souvent.
Donc, je suis au bloc opératoire. Enfin, oui. Cette femme que vous avez accompagnée était au bloc opératoire.
Tout à fait.
Si elle, par exemple, son imaginaire, c'est d'aller se promener en forêt avec des petits lutins, vous allez l'emmener en forêt avec les petits lutins pendant une heure ou deux, c'est ça ?
Tout à fait.
Et vous continuez à lui parler ?
Et on reste toujours avec elle, à ses côtés, parce qu'il faut être attentif à ce qu'on appelle la sortie des transes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où un bruit, un inconfort, une douleur au bloc opératoire peut provoquer la sortie de cette promenade aussi agréable. Et donc nous avons des signes qui nous disent que la personne est en train de sortir des transes pour faire le nécessaire, soit pour la replonger dans sa transe, soit pour faire des antalgiques, parce que parfois c'est nécessaire.
Alors maintenant, si vous nous donnez le témoignage de cette femme qui devait venir et puis qui n'était pas disponible aux horaires indiqués, qui n'était pas disponible ce matin, qu'est-ce qu'elle voulait partager des bienfaits de cette pratique ?
Alors je lui ai demandé comment elle avait vécu cette expérience. Maintenant, ça fait déjà plusieurs années, deux ans ou trois ans, je crois, qu'elle l'a vécu.
Donc rappelez, c'est une opération pour l'ablation
du
sein.
Pour l'ablation d'un sein.
D'accord, parce qu'elle avait un cancer.
Qu'elle avait un cancer, donc déjà l'annonce est douloureuse, l'intervention est douloureuse, et pour une femme, une amputation d'un sein, c'est quand même quelque chose de très très lourd. Et cette femme, on lui a proposé l'hypnose au bloc opératoire au dernier moment. Alors, elle n'a pas eu que ça. Elle a eu une anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire qu'on lui a endormi la partie qui allait être opérée pour éviter la douleur. Et une fois que cette...
Donc, c'est au bloc, on l'a endormi, ça, elle le savait. Et en plus, on lui a dit, si vous voulez, on peut pratiquer sur vous l'hypnose.
Tout à fait.
Donc, vous ne la connaissiez pas. Vous n'aviez pas l'habitude de la promener dans un jardin avec des petits lutins.
Alors, les gens nous donnent des indications qui nous permettent de savoir s'ils veulent aller dans le jardin, dans la montagne, à la mer ou sur la lune.
Mais vous la découvriez, en l'occurrence.
Et cette femme, on l'a découvert au moment où elle est arrivée au bloc.
D'accord.
Mais après, on n'a pas besoin de parler pendant deux heures. Hein. C'est une fois qu'on a mis les personnes sur le chemin, il faut les laisser aller. Nous, on ne sait pas où ils sont. Ils nous disent qu'ils veulent être dans leur jardin qui est très joli, plein de fleurs. On les amène dans le jardin joli, plein de fleurs. Et après, c'est à eux de vivre l'expérience. Et nous, on les accompagne, on reste là dans le cas où il y a une sortie de transe. S'il y a un inconfort, c'est manifeste. Mais sinon, c'est l'expérience de la personne.
Et alors là, qu'est-ce qu'elle voulait rapporter sur cette expérience ? Du coup, je reviens à ma question.
Donc, a posteriori, elle arrive à dire que c'était une expérience merveilleuse. Alors, quand vous avez une femme à qui on vient d'enlever un sein qui vous dit que c'est une expérience merveilleuse, ça, c'est étonnant. Mais ça veut dire qu'elle a passé un moment où le stress, l'inconfort, la douleur, tout a disparu. Parce qu'elle a été capable d'aller se promener là où elle avait envie. Et elle a été chercher ses ressources internes, parce que tout le monde en a, pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et a posteriori, elle est capable de dire qu'effectivement, ça s'est passé sans stress, sans douleur, et que le post-opératoire a été super, parce que du coup, voilà, pas de douleur,
C'est pas seulement l'opération qui s'est bien passée, ça a eu des effets post-opératoires.
Tout à fait. Déjà, elle n'a pas eu d'anesthésie générale, donc elle n'a pas eu tous les inconvénients de l'anesthésie générale. Elle m'a dit, j'ai pu manger tout de suite, ça c'est très agréable pour quelqu'un qui vient de se faire opérer. Elle est rentrée dans sa chambre à pied, ce qui est très rare pour quelqu'un qui vient de se faire opérer d'un sein. Et elle a eu, la récupération est beaucoup plus rapide et plus agréable.
Dominique Ornus-Dragne, vous pratiquez aussi l'hypnose. Est-ce que souvent on vous fait ce retour ? C'est-à-dire que non seulement ça aide sur le moment, mais en plus c'est une expérience qui a des effets, on va dire, oui, des répliques quelque part ?
Oui. Oui, c'est une expérience, on l'utilise beaucoup au bloc opératoire, en fait. Moi, je fais beaucoup d'anesthésie pédiatrique, et c'est vrai que l'enfant, c'est une agression pour lui d'aller au bloc opératoire. Et finalement, si on focalise son attention sur autre chose, et si on le met en transe avant de l'endormir, là il n'est pas question de le faire sous anesthésie loco-régionale, mais sous anesthésie générale, il a un vécu qui est nettement, nettement différent. Et ce que je dis toujours, c'est que moi, au bout de la matinée, quand j'ai 8 enfants à endormir, mon challenge, ce n'est pas d'avoir réveillé 8 enfants, c'est qu'il n'y ait pas un seul qui pleurait. Et c'est l'hypnose qui me permet d'éviter ce que les enfants pleurent pour s'endormir.
Donc ni avant ni après. Ils ne pleurent ni avant ni après. Alors, ça n'est pas un enfant. J'aimerais juste qu'on en dise un mot quand même, parce que, ou plusieurs, parce que beaucoup le connaissent. Alors, peut-être certains ne le connaissent pas du tout. Mesmer, qui est donc un peu le roi de l'hypnose aujourd'hui, ses spectacles tournent. Il était cette année à Toulouse. Il est peut-être tourné ailleurs dans la région. Ça a donné lieu sur TF1 à une émission Star sous hypnose, qui avait des records d'audience, 32% de part de marché, j'ai vu, pour une émission, 4 millions de téléspectateurs. Dans la vie civile, il s'appelle Eric Normandin. Il a pris son nom d'un grand magnétiseur allemand, dont le nom de famille était Franz Anton. Donc, Franz Anton, c'était son prénom, Mesmer. Voilà, il se fait appeler le fascinateur. C'est un Québécois. Qu'est-ce que vous en pensez, l'une et l'autre? En l'occurrence, il fait de l'hypnose ou c'est du charlatanisme?
Il fait de l'hypnose, mais il y a une grosse différence entre l'hypnose médicale et l'hypnose de spectacle. Ce n'est pas du tout le même but. Dans le premier, c'est le soin, et dans le deuxième, c'est le spectacle, par définition.
Donc il fait vraiment de l'hypnose, par contre.
Ah oui.
Voilà, donc quand on le voit chez Coé faire en sorte qu'il hypnose Coé, c'est vraiment ce qui se passe.
Il hypnose Coé, oui. Alors, l'hypnose, c'est un ensemble de techniques, mais il n'y a pas que la technique. C'est-à-dire que lui, il est excellent en technique, hein, il est vraiment très très bon.
Mais, parce qu'il endort quand même les gens quasiment sur un claquement de doigts, avec une rapidité qui est...
Oui, alors après, il y a des gens qui sont beaucoup plus suggestibles et beaucoup plus sensibles à ce type d'hypnose très dirigiste que d'autres. Il y en a qui ne rentrent pas du tout là-dedans.
Mais quand il va, par exemple, chez un animateur comme Coé, on imagine qu'il n'a pas testé Coé avant d'arriver, donc...
Je ne sais pas.
Ouais. Bref, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas là pour dire du mal des gens, mais votre sentiment sur ce type de pratique, c'est une manière, en fait, de dévoyer, d'utiliser l'hypnose? C'est pas du tout une bonne publicité faite aux praticiens que vous êtes?
Je crois que c'est surtout très différent. C'est pas du tout le même but. C'est pas du tout le même but.
C'est une question d'objectif.
Une question d'objectif.
Voilà.
Bon, c'est bien. Nos invités sont délicates. L'objectif n'est pas de soigner, mais peut-être de faire du fric. Voilà, comme ça, les choses sont dites.
Ce que je voulais rajouter quand même pour le bloc opératoire, c'est qu'il faut que tout le monde joue. C'est-à-dire qu'il faut que les chirurgiens se taisent. Il faut que personne ne rentre dans le bloc opératoire. Ça veut dire qu'il faut un patient ou une patiente qui soit volontaire, qui soit motivé pour le faire. C'est dire que tout le monde ne peut pas être dans un bloc opératoire sous hypnose. Voilà. Ça dépend du patient, ça dépend du chirurgien, ça dépend de l'intervention, ça dépend de l'anesthésiste.
On en parlera un petit peu. Je propose juste, avant qu'on fasse la pause, la première pause, est-ce qu'on peut faire un tout petit peu d'histoire? J'ai cru comprendre que l'hypnose ne datait pas d'hier, qu'elle était probablement utilisée déjà chez les Égyptiens. Qu'est-ce qu'on sait des utilisations les plus anciennes? Est-ce qu'il y a d'autres civilisations comme ça? Rose Pérez et Miguel, puisque vous avez été désigné volontaire pour cette partie historique, est-ce qu'on a trace d'anciennes civilisations qui utilisaient l'hypnose?
En fait, l'hypnose est utilisée depuis toujours. Hein. Elle a été utilisée dans les rituels, que ce soit des rituels religieux ou culturels. Elle est utilisée encore aujourd'hui beaucoup d'autres rituels qui sont peut-être un peu moins importants qu'à l'époque des Égyptiens, mais c'est une pratique qui est utilisée, connue et utilisée depuis toujours, depuis la nuit des temps.
Alors ensuite, si on doit parler donc de l'époque récente, ce fameux Franz Anton Mesmer, c'est quoi en fait? C'est le premier grand vulgarisateur du sujet? J'ai cru comprendre que c'était 17e, 18e, c'est ça?
19e,
pardon.
Il était médecin, Mesmer. C'était un médecin autrichien qui est venu s'installer à Paris et qui a été le premier à utiliser l'hypnose, qui ne s'appelait pas hypnose à l'époque, à des fins médicaux. Donc on peut considérer que c'est lui qui a initié l'hypnose dans la médecine. Et après, bon, il a
avec quel accueil, on sait ou pas l'accueil qui a été fait?
Ça a été très modéré, on va dire.
Mi-raisin, oui.
Et après, ça a été utilisé beaucoup plus dans les débuts du XXe siècle, là par des professeurs de la grande école de la Salpêtrière, avec le professeur Charcot et tous ses disciples qui sont des grands noms de la neurologie. eux utilisaient l'hypnose dans la recherche neurologique. Freud a été un disciple de Charcot. Il est venu à Paris à plusieurs reprises pour apprendre l'hypnose. Après, lui, il l'a utilisé dans d'autres domaines, dans le domaine de la psychiatrie, mais il a eu ses débuts à Paris.
On peut dire aussi, avant de faire cette première pause, pour que les gens restent avec nous et ne se disent pas que vous êtes deux drôles de praticiens, qu'il y a une douzaine de cursus universitaires aujourd'hui reconnus par l'Ordre des médecins en France. J'ai vu que le personnel hospitalier se formait à La Rochelle, à Aix-en-Provence, à l'hôpital Salpêtrière à Paris, etc., etc. J'ai vu aussi qu'au CHU de Liège, en Belgique, 9000 patients ont été opérés sous hypnose depuis 1992. Donc vous n'êtes pas toute seule à pratiquer ça. On va faire une première pause et puis on va rentrer encore plus dans le vif du sujet pour essayer de voir ce qui se passe, quelle technique est utilisée et puis quelles sont les applications de cette pratique.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Hypnose, vrai soin ou charlatanisme, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. En ce vendredi, on se permet quelques escapades et nous sommes autour du plateau donc avec Dominique Ornus-Drain qui est anesthésiste et réanimateur et médecin du sport et qui officie pour l'équipe de France d'escrime handisport. On en parlera dans quelques minutes. Et Rose Pérez-Miguel, vous êtes anesthésiste réanimateur, je vais y arriver, spécialiste de la douleur, on appelle ça algologue. Je voulais que vous nous racontiez plus en détail les techniques d'hypnose. J'ai cru comprendre en fait qu'il y avait un peu deux grandes écoles. Alors moi j'ai fait avec mes fiches. Hein, vous allez me corriger. Il y aurait donc une première pratique qui serait donc la transe. Donc ça serait une amplification du champ de conscience du moi. Alors, vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. C'est ce que vous avez décrit peut-être au début de l'émission. Et puis, l'autre, une hypnose, c'est une restriction, au contraire, du champ de la conscience et l'accès aux automatismes inconscients. Bref, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a différentes manières, en fait, de pratiquer l'hypnose? Ou est-ce qu'il y a une autre grande école? Là, en l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire? Amplification du champ de conscience du moi ou, au contraire, accès à des automatismes inconscients? Qu'est-ce qui se passe, en fait?
En fait, en réalité, on peut faire la définition de l'hypnose est difficile. C'est-à-dire que ce sont différentes techniques. Ce qui change, ce n'est pas tellement l'école, c'est la technique. Il y a beaucoup de techniques différentes pour faire entrer quelqu'un en transe. Mais une fois que la personne est en transe, la conscience qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, la conscience critique, c'est-à-dire celle qui nous permet de nous adapter au monde, de comprendre ce qui se passe autour, d'analyser la conscience analytique, en fait, celle qui nous permet d'analyser la situation dans laquelle on est, elle s'éteint un petit peu pour laisser place à un autre type de conscience qui est celui qui permet de faire fonctionner son imaginaire.
Et c'est un état de conscience modifié
ou
on a accès à l'inconscient en fait. On est quoi? On est à la frontière des deux.
C'est-à-dire qu'on n'est jamais très loin ni de l'un ni de l'autre. La conscience, la vraie conscience, ne s'éteint jamais. Elle est là pour nous protéger. Et la conscience un peu imaginaire, c'est-à-dire cet autre état modifié de conscience, il est très amplifié quand on est en état d'hypnose, mais peut-être pour répondre à la question qui n'a même pas été posée, on ne peut jamais, ou normalement, on ne peut jamais faire de quelqu'un sous état d'hypnose ce qu'on veut, dans la mesure où on ne pourra jamais transgresser les principes moraux et les principes éthiques de la personne quand cette personne a des principes vraiment... C'est-à-dire que je vous donne un pistolet sous hypnose, je vous demande de tuer quelqu'un. Si dans vos principes, vous ne tuez pas quelqu'un, vous ne le ferez pas.
Alors excusez-moi, mais je reviens à Mesmer. Quand on voit Mesmer qui va sur certains plateaux de radio ou télé et son cobaye se met à faire plus que des danses suggestives en plateau, c'est que dans le fond, le cobaye accepte d'aller jusque-là, c'est ça?
Le cobaye accepte d'être là où il est. Et dans la mesure où il est là, il accepte ce qu'on lui propose.
Ce qui est quand même deux choses différentes. Là, vous êtes en train de dire qu'il n'a plus tout à fait son libre arbitre, quand même.
Alors, normalement, cette personne, quand on lui demande de faire quelque chose qui va contre ses principes fondamentaux, il ne le fera pas.
D'accord. Donc, on est là, sans être là. Enfin, on est là, mais... Si, on est là, tout à fait là, mais dans un état de conscience modifié. C'est donc pas du sommeil. Enfin, ça ne ressemble pas du tout à du sommeil profond, où là, vraiment, on est dans nos rêves ou...
Non. Alors, ça s'appelle hypnose, justement, parce que ça ressemble, quand on regarde la personne physiquement, ça ressemble à un état de sommeil. C'est-à-dire que la personne, sauf chez Mesmer, la personne est immobile, elle a souvent les yeux fermés, elle a une décontraction musculaire qui fait qu'on a l'impression qu'il dort, et puis il a une respiration très calme. Enfin, quand on le regarde, on a l'impression qu'il dort. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire... Sa conscience inconsciente, je peux appeler ça comme ça, cette personne est très active. Elle est en train de travailler, de faire travailler son inconscient de façon très très active. Donc ce n'est pas un sommeil, ce n'est pas du coma. Et ça a pu être prouvé justement par la recherche fondamentale pour revenir aux neurosciences.
Alors c'est la question que j'allais vous poser. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, avec toutes les techniques d'imagerie médicale, on a pu voir à peu près ce qui se passait. Est-ce que vous pouvez expliquer avec des mots simples ce qu'on comprend?
On a des techniques d'imaginerie maintenant, c'est-à-dire qu'on peut regarder dans les images le fonctionnement cérébral. Alors, on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment, mais on peut savoir que quand on a mal, il y a différents endroits du cerveau qui sont plus vascularisés, qui s'allument. On appelle ça s'allumer quand on regarde les images. Et quand on est sous hypnose, on a aussi des allumages ou des zones cérébrales qui s'éteignent. Par exemple, on a fait beaucoup de recherches concernant la douleur et il y a des zones qui s'occupent de la douleur, du ressenti de la douleur, mais surtout des émotions déclenchées par la douleur qui sont totalement modifiées quand on est en état d'hypnose.
Alors maintenant, on va essayer de s'intéresser aux pratiques. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce que vous pratiquez toutes les deux, semble-t-il, voilà, dans le cadre de votre métier d'anesthésiste réanimateur. Vous disiez tout à l'heure, mais rapidement, que ça ne marche pas pour tout le monde. Ça ne peut pas se faire dans toutes les circonstances. Mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes au bloc, les gens arrivent et vous dites bonjour, est-ce que vous voulez qu'on utilise la transe ou pas?
L'idéal, c'est malgré tout quand on voit les patients en consultation avant, de leur proposer. Ça, c'est un premier point. Histoire d'essayer aussi de discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qui peut les rendre plus confortables. Je crois que c'est quelque chose d'important et ça, c'est mieux de le prévoir avant. Il y a quelques années, effectivement, on pouvait le proposer aux patients qui arrivaient au bloc opératoire. Maintenant, c'est quelque chose qui se prépare.
Pourquoi on le faisait il y a quelques années, maintenant on ne le fait plus? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas juste ou...
Non, pas vraiment, parce que juste, il y avait moins de praticiens qui le faisaient, qui faisaient les propositions au dernier moment, puis c'était pas toujours ceux-là qui...
Parce que ça peut avoir, excusez-moi je vous coupe, quelque chose de surprenant, c'est quand on n'est pas habitué, qu'on n'a pas écouté 10 émissions sur l'hypnose, c'est...
Oui, mais c'est vrai qu'on le faisait aussi parce que les chirurgiens ne le proposaient pas, alors qu'actuellement, les chirurgiens peuvent le proposer pour certaines chirurgies. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, les chirurgiens, pour eux, c'était pas pensable. Et c'est pour ça qu'actuellement, on le propose beaucoup plus en consultation de pré-anesthésie. Ça permet de mettre le patient beaucoup plus en confiance et qu'il se prépare à cette transhypnotique.
Est-ce que vous, dans votre pratique, vous pouvez chiffrer le nombre de fois où vous utilisez cette pratique en complément ou à la place d'eux?
Alors, après, il y a autre chose, c'est que quand on a fait sa formation d'hypnose, on a d'autres notions de la communication thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, un patient qui arrive au bloc opératoire, il est en stress. Et par des techniques hypnotiques, sans le mettre vraiment en transe, on arrive à bien diminuer ce stress. Il y a des mots qu'on n'utilise plus et que les infirmières n'utilisent plus.
Par exemple ?
Par exemple, piquer, pincer, je vais vous faire une petite piqûre. Ben non, d'abord c'est pas petit une piqûre, puis ça pique. Donc on utilise tous les mots qui sont positifs et qui ne sont pas négatifs. On apprend à parler aux patients.
Alors comment on dit piqûre sans parler de piqûre? Je vais vous faire une quoi, vous dites?
Je vais mettre un petit cathéter dans votre bras.
Ah oui, mais là c'est presque... Ah, ils sont forts quand même. Hein. D'accord, donc en tout cas donc ça transforme un peu votre pratique, c'est ce qu'on entend.
Ah, complètement.
Et si vous deviez répondre à ma précédente question, c'est quoi? C'est une fois sur 10 que vous faites de l'hypnose en plus de...
Vous savez, je crois que quand on a pris l'habitude... On endort les patients quasiment toujours, pas en les mettant en transe, mais en les rassurant, et c'est quelque part une technique hypnotique. C'est quasiment tous.
Est-ce qu'il arrive que ça soit à la place d'eux? Tout à l'heure, vous décriviez donc une opération où la personne avait eu une anesthésie locale. J'ai vu qu'on avait circulé dans la presse, alors j'avoue que moi, je n'avais pas entendu parler, l'histoire d'une opération à cœur ouvert en 2018, où la personne, soi-disant, n'aurait été endormie que sous hypnose, et puis qu'en fait, ce n'était pas tout à fait juste. Est-ce que ça peut être à la place d'eux, ou est-ce que c'est toujours un complément?
Alors... Ça peut être à la place d'une anesthésie générale, mais il faut une anesthésie loco-régionale. Et on fait actuellement de plus en plus d'anesthésie d'un bras, d'une jambe, d'un œil, beaucoup plus que d'anesthésie générale. C'est l'évolution de l'anesthésie, ça. Et c'est vrai que ça vient en complément. Je vais vous raconter une histoire toute bête. Un monsieur qui était paniqué après une opération de l'œil. Et je lui dis, mais quel est votre lieu de sécurité? Où est-ce que vous êtes? C'est mon bureau. Alors je lui dis, ah bon, vous avez une fenêtre? Vous avez des arbres? Oh non, non, je ne regarde jamais par la fenêtre. Je n'aime que l'histoire. Il m'a expliqué les tableaux qu'il y avait dans son bureau. Et je l'ai fait partir dans son bureau. Il a été très tranquille tout le temps de l'intervention. Et à la fin, le chirurgien qui n'avait pas tout compris a retiré brutalement le champ opératoire. Et le monsieur s'est mis à crier, mais qui c'est qui est rentré dans mon bureau?
Voilà, ce qui dit bien ce qui se passe. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, bloc opératoire. Oui. Alors, on comprend qu'il n'y a pas forcément de statistiques, mais que c'est une pratique, en tout cas, qui se développe de plus en plus. On peut dire ça comme ça.
Oui, et les infirmières sont très intéressées. C'est quand même les pivots de nos blocs opératoires et de la salle de réveil. Les infirmières sont très intéressées et elles sont... elle cherche vraiment à rassurer le patient et à utiliser des techniques hypnotiques aussi.
Alors, avant qu'on en vienne à la question du sport, puisque oui. vous accompagnez donc l'équipe de France d'escrime handisport, j'ai lu, et puis j'avoue que la personne qui m'a mis sur votre piste a semble-t-il pratiqué cela, qu'on pouvait arrêter de fumer en quelques séances d'hypnose. Et puis en préparant l'émission, j'ai trouvé plusieurs articles qui disaient que c'était pas très sérieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce qui se passe?
Alors
Rose Pérez Miguel,
l'hypnose peut accompagner le sevrage de beaucoup de choses, dont le tabac. Pour que ça marche, il faut que la personne qui fait la démarche soit motivée pour arrêter, parce que sinon l'hypnose, ce n'est pas quelque chose de magique. Hein. Ce n'est pas parce que vous venez nous voir en disant que vous voulez arrêter de fumer, que vous voulez faire de l'hypnose, que vous allez arrêter. Il faut une préparation particulière, il faut une démarche particulière de la part du patient. C'est un accompagnement dans le sevrage tabagique.
D'accord, alors qu'est-ce que ça apporte, le fait d'avoir eu quelques séances d'hypnose? En quoi ça peut aider à arrêter de fumer, par exemple?
Alors, le patient, quand il vient nous voir, il va aller rechercher ses propres ressources à l'intérieur de lui quand il fait une séance d'hypnose. C'est-à-dire que si vous fumez et que vous n'arrivez pas à arrêter tout seul, c'est qu'il y a probablement une raison, comme pour toute addiction, quelle qu'elle soit. Et donc, l'objectif, comme pour toute séance d'hypnose, quand on s'adresse à quelqu'un de malade ou pour ces gens de pratique, dans la pratique médicale, l'objectif, c'est de savoir pour quelles raisons la personne n'arrive pas à arrêter de fumer, qu'elle se sent enfermée dans le cercle du tabac. Et comment faire pour qu'elle puisse en sortir toute seule?
Alors ça, on comprend bien, mais dans ces cas-là, on a envie de dire il va chez un thérapeute. Et puis souvent, ça prend quelques mois, voire quelques années, non?
Oui, mais justement, c'est-à-dire que là, on fait appel, pendant la séance d'hypnose, on fait appel à la partie inconsciente de cette personne qui va aller chercher à l'intérieur d'elle la ressource qui va lui permettre de se libérer du tabac.
D'accord, mais alors expliquez davantage, parce que là je pense qu'on peut perdre certains auditeurs qui se disent « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette pratique ? » Est-ce que c'est un substitut à une thérapie ? Et quand vous dites « aller chercher », ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle fait une sorte de voyage intérieur et puis on ne sait pas ce qui se passe, mais son inconscient travaille et il y a une décision qui est prise, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est comme pour d'autres motifs de consultation en hypnose, c'est-à-dire que la personne qui vient vous consulter, déjà elle est motivée pour aller vers un but. Elle arrive déjà avec le but qu'elle veut atteindre. Là, le but de la personne qui arrive pour arrêter de fumer, c'est d'arrêter de fumer. Donc déjà, elle a fait une première démarche. À partir du moment où on fait la première démarche, on a déjà une motivation qui est forte. Après, les techniques de différents praticiens pour arrêter le tabac ne sont pas les mêmes. Il y en a qui essayent de dégoûter les personnes soit de l'odeur, soit de la fumée, soit... mettant les gens en transe, des techniques de dégoût. Mais ça ne marche pas très bien. Ce qui est plus important, c'est de remplacer le tabac par autre chose de beaucoup plus motivant pour le patient. Et ça, c'est au patient de savoir par quoi il doit le remplacer, par quoi il veut le remplacer et quelle est la démarche qu'il veut faire pour y arriver.
D'accord, mais là, ça n'a rien à voir avec l'hypnose, en l'occurrence.
C'est de l'hypnose, parce que ça se passe pendant la période de la transe.
C'est-à-dire, pendant la période de la transe, vous lui posez des questions?
En général, les questions, on les pose avant. Mmh. Et une fois qu'on a les réponses, on accompagne la personne dans cette démarche.
Alors, on vient tout de suite une question. J'ai pas trouvé grand-chose sur ce sujet. J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Est-ce que l'hypnose aussi est peut-être un substitut en fait à une démarche psychothérapeutique, ou est-ce que c'est, on va dire, pour des petites choses qu'on va voir un praticien de l'hypnose, mais on va dire quand on a vraiment des gros problèmes psychologiques et qu'on veut les affronter, là il faut quand même se tourner vers un psychothérapeute. Est-ce que vous diriez que c'est un peu comme ça qu'on peut faire le choix?
Alors, en général, quand on a des problèmes psychologiques, on va voir un psychologue ou un psychiatre. Et ce qu'il faut faire, quand on a un problème médical, on va voir un médecin. Il y a beaucoup de psychologues et de psychiatres qui sont formés à l'hypnose et qui pratiquent l'hypnose dans la psychothérapie. Donc ce n'est pas quelque chose qui s'oppose, c'est un outil, l'hypnose est un outil pour accompagner les personnes dans l'accompagnement dont ils ont besoin. ils viennent voir...
On pense par exemple à la psychanalyse, non?
Alors la psychanalyse...
S'allonger sur le divan et s'endormir petit à petit, c'est pas en fait avoir une sorte d'état d'hypnose, non?
Non, alors ça n'a rien à voir, c'est tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire que la psychanalyse et l'hypnose veulent atteindre toutes les deux l'inconscient du patient, mais ils ne se prennent pas du tout de la même manière.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, ne serait-ce que sur la durée du soin. Vous allez voir quelqu'un qui fait de l'analyse.
Oui, on est parti pour quelques années.
Vous le savez avant d'y aller, vous savez que vous allez faire 2-3 séances par semaine pendant plusieurs années. Mmh. L'hypnose, elle essaye de chercher... Dans l'hypnose, on n'essaye pas de trouver
En français.
La racine. On n'essaye pas de trouver la racine du problème, on essaye de régler le problème. Et c'est cette démarche qui est complètement différente par rapport à la psychanalyse. Pendant des années, en psychanalyse, vous allez chercher pourquoi vous êtes mal, alors que ce que vous voulez, c'est aller bien.
Oui, enfin, il ne faut pas non plus complètement décrier la psychanalyse.
Je ne la décris pas. Je dis que ce n'est pas la même, ce n'est pas la même manière de faire. C'est-à-dire que quand vous allez chercher pendant des années l'origine de votre problème, vous n'êtes pas en train de régler forcément votre problème.
Mais quand on est chez le psychanalyste, enfin, on n'est pas là pour parler de la psychanalyse, qu'on est allongé, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est d'être un peu endormi. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'hypnose, on n'est pas en état d'hypnose.
Non, ça n'a rien à voir, non. D'ailleurs, en psychanalyse, vous parlez plus que vous dormez.
Dominique Ornus-Dragne, racontez-nous, est-ce que vous utilisez cette pratique avec l'équipe de France Escrime Handicap? Et si oui, comment?
Pas avec tous les sportifs, mais oui. Oui, je l'ai utilisé sur plusieurs grands champions, ou championnes d'ailleurs, en handisport et même en escrime valide, parce qu'il y a des sportifs qui sont très réceptifs. Alors, qu'est-ce que ça apporte en médecine du sport, l'hypnose? Vous savez, quand on a une compétition sportive, ils sont tous très forts. Dès qu'on va aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, physiquement, ils sont tous équivalents. Techniquement, ils sont quasiment tous équivalents. Ce qui va faire la différence pour être champion, c'est le mental. Voilà. Et à quoi sert l'hypnose en médecine du sport? La première chose, ça permet de déceler les peurs et de les transformer en énergie positive. La deuxième chose, c'est la gestion du stress. Et à ce sujet-là, je leur apprends beaucoup l'auto-hypnose, voilà, pour qu'ils puissent déstresser tout seuls. La gestion du stress en arrivant à la compétition. Et ensuite, il y a une autre action de l'hypnose qui est très intéressante, c'est en fait la visualisation. C'est-à-dire qu'en travaillant avec un sportif en amont d'une compétition, on ne travaille pas au dernier moment, hein, en travaillant avec un sportif en amont d'une compétition, on va pouvoir lui suggérer l'excellence du geste. Cette excellence du geste, elle va être inscrite dans ses neurones et quand il sera sur la piste, il aura l'excellence du geste. C'est le petit plus. Et puis ensuite, l'hypnose est très intéressante pour les sportifs après blessure. Parce que, vous savez, je pense en particulier à un sauteur en hauteur que j'avais eu à traiter. Il avait eu une ligamentoplastie parce qu'il avait eu une entorse du genou en sautant. Et après, il est revenu physiquement au même point, mais il n'osait plus sauter parce qu'il avait peur de se faire mal.
Qu'est-ce que l'hypnose vient faire là? Qu'est-ce qu'elle vient guérir?
Justement, l'hypnose, des séances d'hypnose à ce niveau-là, lui permettent de reprendre confiance en lui et de reprendre son niveau antérieur.
Alors juste, il y a une chose que je ne saisis pas tout à fait, et vous avez dit que c'était le premier effet, je vous laissais le reciter, c'est qu'à vous entendre, comme vous, docteur Rose Pérez-Miguel, donc il y a un travail qui se fait au moment en fait, de l'état hypnotique. Oui. Mais c'est-à-dire, en fait...
Je vous donne un exemple, un sportif handisport. Vous savez, en escrime, je suis une escrimeuse, hein, en escrime, on a toujours une bête noire. On a toujours quelqu'un qu'on n'arrive pas à battre. Ou qu'on a battu une fois. Eh bien, par des séances d'hypnose, on arrive à les remettre dans le contexte de la fois où ils ont gagné. Et de les remotiver, et de manière à ce qu'il soit vainqueur contre cette personne.
Mais c'est-à-dire, vous parlez à ce moment-là au patient, pendant la séance d'hypnose?
Oui, en sport, il faut connaître le sport.
Et il répond? Il répond pendant la séance d'hypnose?
Non. On le met juste dans la compétition. On lui fait visualiser la victoire.
Alors, juste pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause, donc, ça n'est pas du charlatanisme. Est-ce que vous diriez que c'est un soin? Parce que vous entendre, c'est à la frontière, c'est à la fois un complément, et en même temps, on a l'impression que parfois, c'est un soin.
En médecine du sport, ce n'est pas vraiment un soin.
Et comment vous le qualifieriez, alors, c'est l'une et l'autre?
Pour moi, c'est un apport de préparation mentale, en plus.
Voilà, et vous, qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez que c'est une forme de soin ou pas?
En médecine, c'est une forme de soin, c'est-à-dire que ça ne peut pas, ou dans des très rares occasions, ça ne peut marcher tout seul. C'est plus un complément pour accompagner d'autres types de thérapie. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un avec l'hypnose, mais vous pouvez accompagner la guérison. Ce n'est pas pareil.
On fait une deuxième pause et puis on vous retrouve pour quelques conseils pratiques pour finir cette émission. Pour ceux qui voudraient se lancer ou ceux qui se sont lancés, qui ont eu des mauvaises expériences, on va essayer de voir comment on peut trouver un bon praticien. Voilà, est-ce qu'il y a des formations qui existent, quels sont les tarifs, etc., etc.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Hypnose, vrai soin ou charlatanisme, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec autour du plateau Dominique Ornus Dragne, anesthésiste, réanimateur et médecin du sport, notamment auprès de l'équipe de France d'escrime handisport, et Rosa Pérez Miguel, anesthésiste, réanimateur aussi et spécialiste de la douleur. De temps à autre pour ces émissions, voilà, j'aimerais que finir sur un volet plus pratique. Tout simplement, la première question qui vient, et je pense que beaucoup se la posent pour d'autres pratiques, en tout cas toutes les médecines dites alternatives, hein, je ne sais pas si on peut qualifier ça, mettre ça dans ce lot, qui sont de plus en plus importantes. J'ai lu des chiffres publiés par l'Ordre des médecins en France disant qu'il y avait 40% des Français qui ont recours aux fameuses MAC, donc médecine alternative. Le C de MAC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, en tout cas que ça se répand. Comment déterminer, comment savoir si, quand je vais vous voir, Rosa Pérez Miguel ou Dominique Ornus Dragne, vous êtes des praticiennes sérieuses? Est-ce qu'il y a un label qui existe?
Non, justement, c'est ça le problème. Et je pense que l'hypnose médicale, l'hypnose soins doit être pratiquée par des professionnels de santé, qu'ils soient psychologues, qu'ils soient médecins, kinés, infirmières. Mais il faut vraiment que ce soit des soignants. Parce que vous ne pouvez pas soigner si vous n'avez pas les bases de physiologie et d'anatomie. Et si vous ne pouvez pas déceler autre chose.
Donc le premier critère, c'est qu'il faut que la personne soit un soignant. Voilà.
Oui. Pour moi,
il faut diplômé d'autre chose que de ça. C'est...
Oui. Pour moi, c'est un gros plus d'avoir des soignants. Je vous donne un exemple. L'hypnose est utilisée pour l'anorexie de l'enfant.
Pardon, l'anorexie, c'est...
C'est le pipi au lit.
D'accord.
C'est utilisé pour ça. Mais avant de faire des séances d'hypnose à un enfant qui fait pipi au lit, il faut savoir s'il n'y a pas un problème organique dessous. Voilà. Et pour tout, c'est pareil.
Ou un problème aussi d'ordre psychologique.
Ou d'ordre psychologique. Mais avant, il faut faire le bilan de l'enfant. On ne peut pas, comme ça, se lancer dans l'hypnose. Et c'est à cause de ça que je pense vraiment que ces séances d'hypnose doivent être faites par des soignants.
Voilà. Est-ce à dire que l'hypnose a mauvaise réputation parce que beaucoup de gens qui la pratiquent sont des gens qui ne sont pas des soignants, ou est-ce qu'en France, globalement, ceux qui la pratiquent sont des soignants?
Je crois qu'il y a des gens très bien qui ne sont pas des soignants et qui pratiquent très bien l'hypnose, moyennant quoi, le fait que ce soit un soignant, c'est quand même une garantie.
J'ai lu qu'il y avait une confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève, la CFHTB, et que c'était censé être un organisme assez sérieux. Est-ce que vous corroborez cette information?
Et oui, c'est un organisme de formation, déjà, et qui, en plus de former des hypnothérapeutes, fait de la recherche dans l'hypnose. Et surtout, là où il y a peut-être une différence avec les autres, c'est qu'on a un code déontologique quand on appartient à ce type de fédération. C'est-à-dire que
À cette fédération, en l'occurrence.
Non, à ce type de fédération, elle n'est pas la seule. Il y a d'autres organismes de formation, il y a d'autres fédérations aussi.
Et toutes les fédérations se valent? Il n'y en a pas une ou deux à donner?
Non, moi je ne vais pas donner, un ordre de ce qui se valent ou ne se valent pas. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que les gens qui pratiquent l'hypnose doivent être déjà des soignants quand on fait du soin. Et en plus, il faut avoir un code déontologique qui protège de beaucoup de dérives. C'est-à-dire que moi, je ne ferai pas n'importe quoi parce que ma déontologie me l'interdit.
D'accord, mais alors moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. J'ai envie d'aller trouver un praticien d'hypnose. Donc, première chose, je m'arrange pour que ça soit un soignant. Après, je fais quoi en fait? Je lui demande où il a étudié. Et puis après, je vais vérifier sur Internet. Je lui demande quel est son code de déontologie.
Alors, normalement, maintenant, de plus en plus, pratiquement tout le monde a un site Internet. Et sur ces sites Internet, les gens l'écrivent.
Ils s'écrivent quoi? Ils s'écrivent qu'ils ont un code de déontologie.
Ça, oui.
Oui, il détaille en fait le code de déontologie.
Après, on ne fait pas la liste de ce qui appartient au code, mais on peut vous dire à quel endroit vous avez été formé. Vous pouvez rentrer sur la page de cette formation et voir quel est ce code de déontologie.
D'accord. Et dans le code de déontologie, est-ce qu'il y a quelques aspects qu'il faut immanquablement trouver pour être sûr que c'est une personne sérieuse?
Alors, à partir du moment où vous avez quelqu'un qui appartient à un organisme qui a ce code de déontologie, vous pouvez être plus ou moins rassuré. Parce qu'en général, ce sont les codes qui sont appliqués ou aux médecins, aux psychologues, enfin à des soignants.
Alors, pour vous, ça paraît assez naturel. Moi, j'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de cette pratique. Alors, ça va peut-être faire hurler beaucoup d'auditeurs comme d'une pratique sérieuse. J'imagine que vous êtes souvent confronté à ce type de réaction quand vos proches ou des gens que vous accompagnez. Comment est-ce que vous arrivez à les rassurer? Qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs pour se détendre?
Je pense surtout que ceux qui viennent voir un hypnothérapeute ont envie de passer par des séances d'hypnose. Il y a des gens qui refusent. Ça m'est déjà arrivé. Des gens qui me disent, moi, je ne peux pas. Et il y a des gens qui m'ont dit, moi, mon psychiatre ne veut pas. C'est arrivé aussi. Après, pour rassurer, je veux dire, s'ils font la démarche, et si c'est une bonne indication, je veux dire, ils sont rassurés d'emblée, puisqu'ils le veulent. Et c'est vrai que, vous savez, je crois que beaucoup de personnes actuellement se tournent vers les thérapeutiques dites alternatives, que moi j'appelle complémentaires, simplement parce que c'est une vision intégrale de la personne.
C'est holistique, on dit.
Oui, c'est holistique, hein. Voilà. C'est une médecine holistique, et ça, je crois que c'est quelque chose de très important.
Est-ce que tout le monde peut avoir recours à l'hypnose, ou est-ce qu'en fait il y a des personnes avec qui ça ne marche pas aussi?
Ça peut ne pas marcher.
Pérez-Miguel.
Ça peut ne pas marcher, mais en général, à partir du moment où la personne fait la démarche, c'est qu'elle pense que ça va marcher. Après, on peut y croire ou pas y croire, c'est pas le problème. De toute manière, l'hypnose, la transe hypnotique, ce n'est qu'une technique. Ça dépend comment on l'utilise, dans quel but. Et après, on n'est pas obligé de faire non plus de l'hypnose formelle, hein, comme on a décrit tout à l'heure. Ça peut être juste de la parole. On peut, par la parole, amener les gens à changer un petit peu de comportement ou de façon de voir la vie.
D'accord, mais là, vous ne parlez plus de l'hypnose, là.
Si, c'est de l'hypnose quand même. Ça s'appelle de la communication thérapeutique.
Oui, alors expliquez-moi, là, parce que j'ai peur que vous nous perdiez.
C'est une technique hypnotique, c'est-à-dire que je peux, sans vous dire on va faire de l'hypnose formelle, vous amener à quand même rentrer à l'intérieur de vos propres...
D'accord, c'est une autre manière d'emmener, en fait, la personne.
C'est une autre manière d'amener qui n'a rien à voir... et qui peut être un peu plus informel.
D'accord. Est-ce que l'Ordre des médecins s'est intéressé à cette formation? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est réglementé? Est-ce que vous êtes en demande de réglementation?
Alors justement, rien n'est réglementé pour l'hypnose. C'est-à-dire que n'importe qui peut mettre une plaque hypnothérapeute. Et je sais que certains hypnothérapeutes ont eu une formation d'un week-end. Vous avez des publicités pour faire en un week-end une formation d'hypnothérapie.
Il faut combien de temps pour que ce soit une formation sérieuse? 3 mois, ça suffit pour faire une formation sérieuse? 3, 6 mois?
Alors, ça dépend si c'est à temps plein ou pas. Disons qu'il faut des séminaires et il faut, si j'ose dire, il faut digérer chaque séminaire. Vous savez, quand on fait une formation d'hypnose, c'est une remise en question de soi-même. Avant de pouvoir faire une transe hypnotique, il faut se remettre en question soi-même. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas trouvé facile ma formation d'hypnose qui a duré 2 ans. Mais 2 ans, pas 2 ans à temps plein, 2 ans en séminaire. Mais il faut vraiment pouvoir avaler le premier, réfléchir au premier pour aller au second. C'est pas en un week-end ou c'est pas en une semaine que vous le faites.
Et pour finir, est-ce qu'il y aurait, on va dire, 2-3 choses à avoir en tête? C'est-à-dire, en général, c'est quoi? C'est plusieurs séances? Combien coûte la séance? On imagine qu'elle n'est pas remboursée, du coup, hein, par la Sécurité sociale. Il y a peut-être différents nombres de séances en fonction du travail à faire, mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme élément précis ou chiffré?
Alors, comme élément précis, peu, parce qu'il y a des choses qui peuvent se résoudre en une séance. Ça arrive... Avec les enfants, par exemple, mais ça peut arriver aussi chez l'adulte, parce que des fois, c'est des petits ajustements, hein, qui peuvent se régler en une séance.
Un exemple, vous auriez
La douleur de l'enfant, l'enfant qui se lève tous les matins pour aller à l'école et qui a mal au ventre. Et les parents qui sont désespérés parce que l'enfant ne va jamais à l'école ou la maîtresse rappelle 10 minutes après. Une séance, ça peut suffire. Avec des rappels à une certaine, si jamais ça recommence, mais enfin une séance, ça peut suffire. Parce que parfois, il suffit de rassurer l'enfant et de le remettre un petit peu sur le chemin de l'école. Après, la plupart des fois, on appelle ça des thérapies brèves, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti pour des années. La durée peut être des 3 à 10 séances, c'est rare que ça soit plus long que ça.
Pour finir, hein, pardon, je vous pose la question une dernière fois. On entend que voilà, vous pratiquez ça dans des cadres très sérieux, hein, donc dans des cadres, dans des hôpitaux, auprès de l'équipe de France, etc. Pourquoi en fait le Conseil de l'Ordre des médecins se penche pas dessus et met pas un peu d'ordre dans tout ça, réglemente pas tout ça pour on va dire éviter justement de prendre ça pour du charlatanisme?
Parce qu'il n'y a pas que les médecins qui pratiquent l'hypnose.
Et donc?
Et donc, il y a les infirmières, elles ne dépendent pas du Conseil de l'Ordre. Il y a les kinésithérapeutes,
tout ce monde-là
ne
pourrait pas se mettre d'accord autour d'une table.
Pour l'instant, ils ne le font pas. Moi, effectivement, je rêverais d'une bonne organisation des choses et surtout, quelque part, d'une vérification des compétences.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin pour nous parler de l'hypnose. Affaire à suivre donc, pour ceux qui voudraient se lancer. Eh bien voilà, ayez bien en tête les conseils qui ont été donnés. Oui, il y avait peut-être une dernière chose, c'est que certaines personnes qui pratiquent la médiumnie peuvent avoir recours à l'hypnose. C'est un point d'attention. Alors, je ne voudrais pas effrayer tout le monde à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, peut-être pour finir, Rose Pérez-Miguel?
Là, on est déjà dans le champ de ce qui est sectaire, hein, donc c'est très à la marge. Mais effectivement, il faut faire attention, comme les approches de n'importe quelle secte.
Voilà, vous rajouteriez quelque chose, Dominique Ornus-Drain ?
Et oui, d'autant que ce sont souvent des gens vulnérables.
Donc prudence.
Prudence.
Voilà, mais en l'occurrence, c'est rarement un médecin ou une infirmière, voilà, ou un soignant. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.